Bonjour et bienvenue de nouveau à l'Institut des Libertés en ce jeudi 20 février. Finalement, on avance dans cette année. Le mois de janvier m'a paru interminable.
Un peu long.
Alors, aujourd'hui, on enregistre un jeudi, ce qui est rare, parce qu'en général, nous enregistrons les mardis, parce que nous vous avions prévenu à une grande conférence à Londres, mondiale, qui a réuni pas moins de 4000 personnes, avec des intervenants venant véritablement du monde entier, de plus de 100 pays. Et c'était overwhelming, pour employer un terme anglais.
Un peu épuisant.
Un peu épuisant parce que l'an passé, enfin c'était ça marche par cycle de 18 mois, nous n'étions que 2000, c'était extrêmement bien organisé, encore une fois comme cette année, mais être 4000 dans un même lieu, au même moment, c'est énormément de stimulation visuelle, auditive, olfactive un peu parfois,
ouais.
Et c'est beaucoup de troupeaux qui bougent en même temps. Cela dit, on a été quand même exaltés encore une fois par l'énergie qui abonde de toute cette plateforme, de tous ces discours. C'est Jordan Peterson qui anime tout ça avec énormément de brio. Et nous sommes ici réunis aujourd'hui pour un petit peu vous relater les tenants et les aboutissants de ces trois jours, de ce qui s'est passé. Et reprendre un peu avec vous, justement, cette pyramide. Alors, la chose la plus importante...
Ça s'appelle l'arc.
Alors, voilà, j'allais y venir. Alors, cette alliance s'appelle Alliance for Responsible Citizenship, ce qui veut dire que c'est véritablement le but est de retrouver en chaque individu un citoyen, un responsable. On part du postulat qu'on ne sait pas très bien pourquoi, enfin si on le sait quand on commence à regarder depuis les années 70, il y a une sorte de retournement de la société qui a fait qu'on a perdu nos valeurs et qu'on a perdu quelque part ce qui avait fait que l'Ouest était...
L'Occident
avait connu ce développement philosophique, moral, ce développement de la famille, ce développement de l'économie. Et on connaît depuis lors une certaine décroissance en tout point, aussi bien économique que familiale, et qu'il était donc nécessaire de revenir aux fondamentaux, essayer de déterminer justement quels étaient ces fondamentaux, parce qu'encore une fois, si on veut changer de parcours, qu'on s'est trompé de chemin, il faut encore regarder en arrière pour voir quel chemin on a pris.
Il faut retourner à la responsabilité individuelle, c'est-à-dire que les gens cessent d'attendre la solution de l'extérieur et la trouvent en eux-mêmes, ce qui était quand même la base de notre civilisation.
Alors, en partant de ce postulat, effectivement, qui est aussi celui de l'Église d'autrefois, qui est celui de la subsidiarité, nous allons partir de l'individu. La première chose qui était très importante et sur laquelle l'accent était mis, et je sais que c'est un gros mot, mais je vais quand même le dire, c'est celui de la foi. La foi individuelle, la nécessité de trouver en soi la force de prier, quel que soit votre Dieu, mais cette force de, quelque part aussi, de s'extraire d'un monde de bruit, d'un monde d'immédiateté, pour reprendre conscience de, en dehors de soi-même de ce qui peut nous...
C'est ce que disait Bernanos, c'est un peu ce que dit ma fille là, c'est que la société moderne a été créée pour empêcher les gens de prier. Et je crois que c'est-à-dire de se retirer dans le désert et de réfléchir.
Donc c'est l'homme contre les robots et vous devez vous extraire de vos robots.
Contre le bruit.
Contre vos ordinateurs, contre la tentation d'être dans quelque chose d'immanent et sortir de tout ça et prendre le temps. Vous pouvez juste méditer si vous n'êtes pas croyant. Mais en tout cas, posez-vous cette question.
C'est-à-dire, pour encore une fois, ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est que l'Occident a été créé un peu par saint Thomas d'Aquin, tu sais, qui était la réconciliation entre la Grèce et les Juifs. Et ça a été, on a travaillé là-dessus pendant 8 siècles, ça a été incroyable. Et puis est arrivée la philosophie allemande et Marx. Et depuis, on a laissé tomber saint Thomas d'Aquin pour passer à Marx, où la responsabilité est collective.
Mmh.
Donc on est passé d'un monde où la recherche est perdue du salut individuel, a été remplacée par la perspective du bonheur sur Terre, une fois qu'on aura mis tous les méchants à la porte. Et c'est ça dont on crève. Donc il faut retourner, si j'ose dire, à saint Thomas d'Aquin et abandonner Marx.
Alors, le deuxième pilier de la réflexion est donc effectivement revenir sur soi-même, sur l'individu. Et alors, l'analyse qui a été faite, c'est que depuis 72 ans, il y a eu une sorte de retournement de balance qui a clairement été exercé sur l'approche familiale qui autrefois était centrée sur l'humain, qui était centrée sur l'empathie et sur les relations humaines, et qui aujourd'hui se tourne vers une vision beaucoup plus individualiste et auto-centrée. Le résultat a été quoi ? Ça a été un accroissement...
Pas individualiste, égoïste.
Oui, c'est ça. Mais le résultat a été un accroissement vers l'orientation personnel et une focalisation sur le moi, mes ambitions, mes plaisirs, mes besoins. L'ancienne joie d'avoir la responsabilité d'une famille et de s'occuper des autres a été remplacée donc par l'auto-intéressement qui apporte à ce moment-là des gratifications immédiates mais aussi beaucoup de solitude et des conséquences en santé mentale.
Oui.
Ce mouvement qui, avant passé par la recherche d'un bien commun collectif, est arrivé vers celui de la recherche individualiste d'un plaisir hédoniste et a eu comme conséquence majeure des problèmes de santé mentale que nous constatons aujourd'hui chez des enfants et chez des jeunes. On a aujourd'hui un grand nombre de patients qui disent souffrir de ruptures mentales, de problèmes narcissiques, de problèmes de personnalité, et que nos sociétés montrent quand même qu'il y a eu une bascule dans une grande mesure du bien-être individuel.
Bah, c'est-à-dire que si on est dans une société où on ne réussit pas à trouver sa place, mais on ne réussit pas à être Bill Gates ou Elon Musk, à ce moment-là, on est une grosse merde et c'est difficile de se considérer avec... Parce qu'autrefois, si tu étais un père de famille et que tu t'occupais bien de ta famille, que tout le monde te respectait, tes proches te considéraient, tes enfants te considéraient comme Elon Musk. Et c'était quelque chose qui te faisait grandir, quoi. C'était,
ton père disait toujours que l'homme le plus heureux qu'il avait jamais croisé...
C'était des gars dans les déserts, des bédouins qui étaient là, qui se baladaient avec leur famille, sous leur tente, avec les enfants, les petits-enfants, les chèvres, les chiens, et qu'ils étaient contents comme tous. Donc c'est... Je crois que cette notion de la famille qu'on a essayé de détruire depuis bientôt 50 ou 70 ans, c'était quand même l'endroit où les gens étaient les plus heureux. Quoi.
Alors, il semble indéniablement qu'il y ait une rupture, une déchirure dans la construction sociale qui a amené à son tour une crise de la santé chez nos enfants, nos adolescents et nos jeunes. 1 sur 5 jeunes développera une maladie mentale avant de quitter l'enfance, et beaucoup auront des suites dans leur vie adulte, suivant une étude d'octobre 2023.
Et on le voit très bien, par exemple, dans la criminalité, si vous voulez, le marqueur le plus important de la criminalité, c'est l'absence du père à la maison. Donc, si aujourd'hui, par exemple, dans les familles aux États-Unis, en particulier dans les familles noires, il y a 65% des enfants qui naissent sans père. Eh bien, c'est le marqueur le plus fort de la criminalité.
Ce qui contrevient du reste à toute notion de masculinité toxique, parce que si l'homme était toxique, pourquoi est-ce que c'est dans les familles où il n'y a pas de père que justement l'enfant est défaillant ?
Oui, exactement, l'enfant est défaillant parce qu'il n'y a pas... La vieille histoire, c'était que la mère, c'était la protection et que le père, c'était la loi extérieure. Donc il rentrait et il imposait un ordre. Et maintenant, s'il n'y a plus que la protection et qu'il n'y a plus la loi, les enfants sont paumés parce qu'ils ne savent pas où s'arrêter.
Alors, nous élevons malgré nous des enfants qui sont individués dans un certain individualisme, sans capacité ou inclinaison à vouloir prendre des responsabilités de groupe ou de sacrifice pour les autres. C'est aussi renforcé par le fait que désormais, nous avons des familles qui sont beaucoup plus petites. Il est évident, quand on était dans une famille de 5 enfants, on apprenait beaucoup mieux à partager et à être responsable quand on était...
Les claques aussi, d'ailleurs.
Quand on était l'aîné, que quand on se retrouve dans une famille avec 1 ou 2 enfants.
C'est ce que disait, il y a un vieux proverbe, je crois normand, qui disait que quand on avait beaucoup d'enfants, on vivait comme un pauvre et on mourait comme un roi. Et quand on n'avait pas d'enfants, on vivait comme un roi et on mourait comme un pauvre. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne sur votre tombe. Et je crois que ça pourrait dire, mais toute cette sagesse populaire, c'était de dire, bon, la vie est une maladie sexuellement transmissible et qui se terminera mal, mais elle est supportable si on voyage en compagnie des gens qu'on aime. Mais si on est tout seul, il y a peut-être quelques années rigolotes entre 20 et 35 ans, et puis ensuite ça devient un peu triste.
Alors, seuls 45% des femmes veulent des enfants aujourd'hui, contre 98% dans les années 50. Et si elles en veulent, des enfants. Elle ne souhaite pas pour autant les élever, n'ayant pas elle-même été élevée par des mères, ayant transmis la douceur de la transmission orale. Donc, en réalité, on plonge nos enfants plus profondément vers cette autonomie du narcissisme, en ne protégeant pas le lien mère-enfant.
Mais en ne protégeant pas le lien mère-enfant, le lien père-enfant, il a été aussi abîmé, détruit. Donc, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'en réfléchit, c'était dans la précédente conférence qu'ils avaient dit, mais écoutez, si vous proposez aux jeunes mères futures, etc., un monde dans lequel on va tous mourir de froid, de chaud, de maladie, etc., elles vont pas vouloir avoir des enfants. Donc, ça s'accompagne, cette destruction de la famille s'accompagne d'un pessimisme sur l'avenir de l'humanité, qui est extraordinairement pesant. On va tous mourir de faim. Enfin, on abîme la planète. Gaïa va nous en vouloir. Donc, ça s'accompagne d'un malthusianisme extraordinaire et d'une tentative par les puissants d'empêcher les naissances. Et alors, de favoriser l'euthanasie aussi, d'ailleurs. Les deux vont de pair.
Donc, la hausse du foyer avec deux parents au travail a fait qu'il ne restait plus personne pour l'évolution émotionnelle de l'enfant et au plus tard du jeune. Les années 50 ont apporté l'âge de la télévision, de la publicité et du narratif que la route vers le bonheur serait des choses matérielles. Les plus grosses voitures, le plus gros robot aspirateur, le plus gros lave-vaisselle. Donc, la société de consommation telle qu'on nous l'a vendue a joué aussi un rôle majeur dans la perte de nos valeurs en tant que communauté de l'Ouest. Parce que on a vendu le plaisir comme l'accumulation de biens, laisse véritablement.
Mais en plus, si par exemple tu es une famille nombreuse, bah, tu ne peux pas aller à la montagne parce que ça coûte la peau des fesses. Et donc tu es terriblement dévalorisé parce que tu ne peux pas offrir à tes enfants d'aller passer une semaine à Val d'Isère parce que ça coûte un prix. Il faut hypothéquer la maison, quoi. Et tout ça, si tu veux, cette espèce de... Ça s'est passé aussi avec la fin des maisons de famille, c'est-à-dire où il y avait, on allait voir la grand-mère, on voyait les cousins, je veux dire, il y avait toute une espèce de tissu de relations qui était très fort, et puis d'un seul coup, on se retrouve tout seul.
Alors, ce qui était intéressant aussi, c'est que était analysé aussi ce qui était une bonne mère, parce que c'est pas le tout de dire il faut ci, il faut ça. Alors, ça a été analysé de dire c'est pas véritablement c'est pas nécessaire d'être soi-disant la meilleure mère possible, c'était a good enough mother, une mère qui soit suffisante. Parce qu'en réalité, ce qui est très important et qu'on ne dit jamais, c'est qu'on apprend l'empathie par la mère. Le bébé apprend l'empathie par la mère. Nous ne sommes pas dotés nous-mêmes de capacité d'empathie et on le comprend au travers de l'autre, au travers de l'attachement dans ce temps des trois premières années que l'on a avec la mère, et c'est elle qui va nous apprendre la notion d'empathie.
Et ben, mais si vous commencez à mettre les enfants, je sais plus, puisqu'en France on veut maintenant mettre les enfants à l'école à 3 ans, ben ça va pas faciliter l'empathie, quoi, parce que quand vous êtes à 30 dans une classe, vous avez du mal. Donc, c'est très curieux, mais dans les familles autrefois en France, il y avait toujours une vieille tante aussi avec qui on pouvait aller lui parler parce que elle avait toujours été là. Et, je sais pas, il y a toute une série de relations qu'on avait dans l'enfance qui n'existent plus aujourd'hui. Et moi, je trouve que ça rend les gens quand même beaucoup. On en avait fait deux émissions. Qu'est-ce qui arrive aux garçons? Qu'est-ce qui arrive aux filles?
Alors, ils disent aussi qu'il faut remettre en cause toutes les choses qu'on nous dit du style « Oui, l'important, c'est de donner du temps, de qualité à vos enfants. » Ils disent non, il faut donner les deux. Il faut donner de la qualité et de la quantité. Un enfant va avoir besoin des deux. Et il faut en finir avec cette espèce d'auto-narcissisme aussi de nos sociétés. Il faut rejeter cette superficialité de représentation parfaite. L'enfant n'a pas besoin de perfection pour grandir. Il a juste besoin d'avoir son père et sa mère.
Et le fait que ses parents soient sur YouTube en montrant qu'ils ont, ils prennent des vacances superbes, qu'ils ont la plus belle voiture, qu'ils ont la plus belle maison à Saint-Tropez et tout, ça lui fait une belle jambe. Hein.
Ouais.
Ça lui fait rien du tout. Lui, ça là, il n'est pas encore sur YouTube. Et ce truc de YouTube de montrer qu'on est en train de réussir tout, c'est très déstabilisant pour ceux.
Mais ça rejoint la vision narcissique et, voilà. Et la vision de perfection.
Et donc c'est curieux de voir qu'une réflexion de droite anglaise, qui est à l'origine anglaise, je vous en parlerai, mais qui est à l'origine anglaise, repart sur les concepts fondamentaux de ceux qui étaient, Burke ou Roger Scruton, l'importance de la famille et l'importance de la beauté.
Et alors ensuite, et là, donc on va monter de niveau puisqu'on parlait de l'individu, la nécessité que vous avez et que vous aurez aussi de rechercher autour de vous des communautés dans lesquelles vous pouvez vous insérer qui porteraient les mêmes valeurs. Parce ouais. que, encore une fois, c'est un vieux dicton, mais il faut un village pour élever un enfant. Mmh. Et les gens autour de vous dans ce village sont importants aussi parce que c'est quand même plus facile de temps en temps aussi d'avoir des relais institutionnels dont
ben, c'est pour ça que par exemple, tout le monde se moque des Versaillais, tu sais, en France. À Versailles, il y a une espèce de réserve d'Indiens qui s'est faite, oui, de gens qui sont restés là-dessus.
C'est aussi vrai de bonnes écoles.
Oui, c'est aussi vrai de bonnes écoles.
Quelle que soit votre religion, ouais, quelquefois aussi, c'est des groupes de valeurs.
Ça peut être en Vendée. Il y a voilà. des endroits où on essaye de maintenir ça.
Où on essaie de maintenir ça, c'est un petit peu l'idée des irréductibles villages de Gaulois, mais il est tellement difficile de lutter contre le mammouth de l'éducation nationale et ce qu'ils peuvent instiller comme perversité chez nos jeunes, que ma foi, il faut ruser et trouver des moyens de contourner un peu tout ça.
Et là, ce qu'on a façon de faire, c'est que par exemple, j'ai reçu récemment... un jeune avec son père, et son père me disait que le gamin il faisait des études d'économie et tout, et qu'il aimait beaucoup ce que je faisais, et j'ai dit au gamin, surtout, vous dites au professeur ce que le professeur attend, pas ce que je pense moi.
Alors, ça, c'est
vous
ce
avez
que j'ai...
maintenant une schizophrénie dans l'éducation, on dit aux enfants, fais bien attention, ce que tu entends à la maison, tu le répètes pas à l'extérieur, parce que sans ça, tu vas en prendre plein la tête pour pas un rond.
Je
donc
vais
c'est
te dire un
incroyable.
Truc, quand j'ai passé le CAPA, au grand oral, j'ai eu le voile islamique. Et j'avais dans mon jury, puisqu'ils sont trois, le président du syndicat Touche pas à mon pote. Tu penses bien
que tu as été très prudent.
Que j'ai pratiqué ce que j'appelle la taquia éducationnelle.
Oui.
Je lui ai dit tout à fait ce qu'il était nécessaire d'entendre. Je ne rentre pas dans le jeu pour ne pas être avocat. Dans ces cas-là, je ne joue pas. Si j'y suis, j'ai l'intelligence de comprendre qu'il va falloir que je m'adapte pour le temps donné et passer entre les gouttes.
Mais
puisque...
ça veut dire qu'on est dans une société où les gens n'acceptent plus des opinions divergentes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit partout. C'est-à-dire que maintenant, si on essaye de défendre en public les opinions dont on vient de parler maintenant, vous n'allez pas être invité sur France Inter. Hein.
Bien sûr que non. Mais c'est pas grave parce que l'important, c'est que nous, qu'il y ait quelque chose qui s'organise et qu'on soit
voilà,
conscient.
Alors c'est l'effort d'organisation qui est fait, qui est très profond et qui va chercher des gens. C'est amusant parce qu'il y avait des gens qui arrivaient d'Australie, il y avait des gens qui arrivaient de Nouvelle-Zélande, il y avait des gens qui arrivaient de tous les pays du monde, il y avait tous les pays du monde qui étaient là. Et c'était intéressant de voir que c'était la même réflexion partout, c'est-à-dire que c'est une espèce de maladie mentale qui a frappé tout le monde occidental.
Mais c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé, il est certain, avec ce wokisme, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui, au départ, avait éructé par des gens comme Bourdieu, Foucault, qui a été ensuite traversé l'Atlantique, a été digéré et mal digéré par tout un tas de facs américaines, et nous est sorti cette énorme boulette de réjection qu'a été le mouvement wokiste. Et il était assez intéressant aussi de constater, parce que ça, ils en ont parlé, que autrefois, on avait des philosophes qui se posaient la question chez l'homme des devoirs qu'on avait envers la société. Et ça s'est complètement dilué dans désormais ce qu'elles seraient nos droits. C'est-à-dire, on ne voit que des gens qui disent « mais j'ai le droit d'eux, j'ai le droit de... » Oui, mais quels sont vos devoirs? Pourquoi est-ce que depuis Simone Veil et l'enracinement, ou depuis Emmanuel Kant, toute notion de devoir chez l'homme a été annihilée et nous ne serions plus que des jouisseurs et des personnes qui auraient des...
Mais
des...
c'est parce qu'on a cessé de croire à la transcendance, si tu veux, et jusqu'à ce qu'on est passé de saint Thomas d'Aquin, où tu cherchais ton salut individuel, donc tu avais quand même pas mal de devoirs, à Marx, où c'est rien de ce qui arrive n'est de ta faute. C'est la société qui a déterminé, en fait...
Oui, parce que tu nais dans une société par une opposition, tu nais bourgeois ou prolétaire.
Et donc,
tu
tires toute ta vie.
Voilà.
Et de là, on est passé à si tu es noir, tu dois voter démocrate. Si tu es un mâle blanc, t'es sans espoir, il va falloir.
Oui, de toute façon, comme tes parents ne t'ont pas assez aimé petit et que tu n'avais pas de télévision, c'est normal que tu commettes un meurtre en pleine rue.
Oui,
parce
oui.
que quand même,
oui,
c'était pas vraiment de ta faute.
Et
ta vie était déterminée.
L'adéquation entre la pauvreté et la criminalité est insupportable. Mais c'est parce que moi, je connaissais des gens très 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 pauvres quand j'étais jeune en Gascogne ou n'importe où, et ils étaient très 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 honnêtes.
Mais bien sûr, mais de la même façon que la gauche adore nous expliquer que parce que tu serais du peuple, tu devrais forcément avoir mauvais goût. J'ai eu un débat comme ça sur Twitter à propos du film Les Tuches en Grande-Bretagne. Et alors il disait, ah mais c'est ça, c'est parce que vous êtes une bourgeoise, vous aimez pas l'art populaire. Je lui dis, mais c'est pas d'abord de l'art populaire, ensuite j'aime tout à fait potentiellement l'art populaire, s'il est drôle. Et arrêtez de penser que ce qui est grossier serait forcément un mode de fonctionnement
populaire.
Ce qui
est grossier et bourgeois. Moi je crois que le bourgeois est plus facilement grossier dans la façon dont il considère le peuple. Quand tu regardais, celui qui jouait le gars du peuple très bien dans le temps, c'était Bourville. Ben, il n'était pas grossier. C'était le gentil garçon du peuple, tu sais, qui était un peu couillon.
Pourquoi est-ce que mes cousins qui vivent à Arreau n'auraient pas la capacité à apprécier un tableau de Monet et il faudrait leur faire un truc pour eux qui serait
de l'art pompier.
Plus simple.
Et donc, cette histoire, si vous voulez, de pauvreté égale vulgarité et égale criminalité, c'est une façon honteuse de voir le peuple. Et moi, si on revient à ce qu'a dit ce brave le vice-président des États-Unis, on en parlera sûrement, mais Lance, c'est de dire, bah, écoutez, cessez d'avoir peur de votre peuple. Moi, il a dit aux élites quelque chose que j'ai trouvé très fort, il a dit, c'est pas parce qu'ils sont pas d'accord avec vous qu'ils ont pas le droit à la parole. Cessez d'avoir peur de vos peuples. Et on voit bien, dans les élections en Allemagne aujourd'hui, bah, ils sont en train d'essayer d'exclure 30% de la population, quoi. Parce que bah, ils sentent des pieds, mais c'est pas vrai, ils sentent pas des pieds, ils disent ce qu'ils pensent.
Alors donc, on a commencé par la foi, on a parlé de l'individu, et maintenant on va parler de la société dans son ensemble, la nécessité de retrouver un dynamisme économique. La question est donc, est-ce que l'Ouest peut encore croître? Parce que on peut quand même, on le sait, toutes les économies de l'Ouest sont entrées dans des cycles de croissance ralentie. Certains veulent expliquer que c'est une baisse tendancielle, que ça serait dû au Covid-19, à la guerre en Ukraine, à la disruption énergétique.
Ou à la baisse de rentabilité marginale du capital, de la baisse de rentabilité du capital dont Marx parle depuis toujours, qui était une connerie. Quand tu étudies, un gars comme Mick Piketty, par exemple. Il dit que la baisse de la rentabilité du capital est inéluctable, etc. Ce qui est une imbécilité parce que ça ne prend pas en compte la possibilité des inventions. Donc, mais je veux dire ce par là, c'est que ça rentre, cette baisse de la rentabilité du capital, dans ce schéma malthusien qui fait que toute une partie de la gauche pense que, de toute façon, on en prendra plein la gueule et que le rôle de la gauche, c'est d'organiser la décroissance et la misère. Ils pensent pas une seconde qu'on peut s'en sortir par le haut. C'est toujours par le bas.
Et donc, en réalité, le problème remonte à bien plus loin qu'au Covid ou à la guerre en Ukraine, parce que 2008, les pays du G7 et le Canada ont un seuil de croissance d'un tiers depuis les 40 dernières années antérieures à cela.
Donc, le seul critère que j'ai trouvé qui peut expliquer, quand on fait des études, ce que j'ai fait, pourquoi il y a une rentabilité, pourquoi la croissance baisse, c'est la hausse du poids de l'État dans l'économie. C'est-à-dire que si vous faites rentrer l'État dans des endroits où il ne devrait pas être, eh ben, il gaspille du capital. Et gaspillant du capital, la croissance baisse. Voilà, c'est
alors, si on regarde, par exemple, la Grande-Bretagne, elle, a souffert de niveaux d'investissement bas dans les secteurs privés et le secteur public. Et dans le secteur public, la productivité ne s'est pas améliorée depuis 30 ans. La France, elle, a souffert d'un système de retraite inflexible avec un chômage structurel élevé, un marché du travail sans souplesse et des impôts très lourds. Et l'Allemagne souffre de seuils d'innovation bas, d'une structure industrielle ossifiée, d'un coût de l'énergie très haut et d'infrastructures
hautes. Et vous trouvez toujours là l'intervention de l'État dans le coût de l'énergie, dans les réglementations, dans tous les trucs qui vous empêchent. Quand je suis arrivé en Angleterre il y a très longtemps, j'avais été stupéfait parce que j'avais découvert qu'en Angleterre, tout ce qui n'était pas interdit formellement était permis. Quand j'arrivais de France, où tout ce qui n'était pas permis par l'État était interdit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu passais d'une société où, dans le fond, on définissait ce que tu avais le droit de le faire, tu n'avais pas le droit d'en sortir, à une société où on définissait ce que tu ne devais pas faire, et tout le reste, tu pouvais le faire. Ben, c'était une société de liberté. Mais Madame Thatcher avait relibéré cette société, elle a cru très fort, et puis ensuite, on a retrouvé les écolos, on va tous mourir, il fait froid, il faut qu'on règle, par exemple, la fermeture des centrales nucléaires qu'on a fait un peu partout en Europe, était une imbécilité considérable parce que elles avaient aucun effet sur le CO2. Donc si le problème c'était le CO2, il fallait faire du nucléaire, mais non, on a fermé le nucléaire parce que c'était une question morale, c'était pas bien le nucléaire. Mais pourquoi c'était pas bien, on nous l'a pas expliqué. C'est extraordinaire la façon dont les préférences d'une classe malthusienne ont été imposées à toute la population.
Alors, une des causes dont il a été question, c'est que, en réalité, jusqu'à la chute du mur de Berlin, on avait une opposition. C'est-à-dire que nous, les pays de l'Ouest, on était très poussés par le fait qu'on voulait démontrer absolument quelque part au marxisme, parce que on oublie, mais pour toute une génération, quand même, le péril communiste, c'était quelque chose de réel. On avait eu le péril nazi et on avait le péril coco, et c'était à nos portes.
Et on avait vu 56 en Budapest, où les tanks avaient écrasé, et puis ensuite en 68, c'était à Prague, c'était la même chose. Donc
et en France, on a vu arriver tous les petits Cambodgiens
dont on avait pris quelques-uns à la maison et dans le temps.
Voilà, et c'était donc une réalité. On a vu des gens physiquement chez nous qui avaient été écrasés par des régimes communistes. Ouais.
Et d'ailleurs, il y en a un certain nombre de ces gars-là qui sont au pouvoir aujourd'hui en Hongrie et tout, et qui disent que ce qu'ils sont en train de faire en Europe, ça ressemble beaucoup à l'Union soviétique. Quand vous écoutez Orban, il dit c'est tout pareil. Hein,
Notre croissance aussi était tenue par le fait qu'on avait un contre-idéal. En tout cas, on avait
la propriété, le droit, la liberté.
Il y avait
une société de liberté et une société de contrainte. Et donc la liberté, ça impliquait la liberté économique. Mais en nous enlever cette liberté, en nous collant des trucs moraux comme le réchauffement atmosphérique ou je sais pas quoi.
Et alors c'est là où Gordon Brown était arrivé quand le mur de Berlin s'est écroulé. Il a dit « Ah, formidable, ça veut dire qu'on va enfin pouvoir sortir de cette société de boom and bust. »
Oui. Donc on est dans le bust permanent maintenant.
Voilà.
Gordon Brown, c'était le premier ministre anglais et ministre des Finances. C'est celui qui a vendu la quasi-totalité des réserves d'or de la Banque d'Angleterre au plus bas, parce que l'or, ça servait à rien, n'est-ce pas?
Et là, on se retrouve donc dans un monde où on a laissé le soin aux technocrates, désormais, puisque les hommes d'affaires en sont sortis, de gérer nos économies, en oubliant ce qui était quelque part la croissance réelle et son darwinisme.
Mais c'est-à-dire qu'une économie gérée ne peut pas être une économie libre. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, les gens ont dit, ils ont inventé des nouveaux problèmes, parce que normalement, les prix, c'est déterminé par des millions de personnes. Et puis on arrive à un prix qui est un prix d'arbitrage, celui qui fait le bonheur de tout le monde à la fois. Mais si vous décidez que c'est le technocrate qui va imposer le prix, il faut à ce moment-là qu'il trouve des raisons qui lui donnent le droit moral d'imposer le prix. Et donc, il trouve des conditions extérieures sur lesquelles l'individu ne peut avoir qu'un effet. C'est-à-dire que Vous n'avez aucun impact sur le réchauffement atmosphérique individuellement. Mais on vous fait naître un sentiment de culpabilité d'un problème que vous ne pouvez pas traiter et que vous devez laisser à Monsieur Jacques Attali parce que lui, il est intelligent. Mais c'est une façon abominable de traiter les problèmes.
Et alors, en réalité, le communisme est revenu sous des tas de formes différentes dans les années 2000. Donc on a eu l'idéologie de l'environnement qui n'est jamais qu'un communisme déguisé. On a eu l'autre tendance à la doctrine postmoderne qu'on a vue en relativisme dans la théorie sous le nom de Woke. Mmh. Et la société a commencé à se scinder en une multitude de groupes, puisqu'encore une fois, on avait des droits.
Ben, c'est-à-dire que ce qui s'est passé à ce moment-là, qui est très important, c'est que notre société est fondée sur l'égalité de tous devant la loi. Et dans le fond, que vous soyez noir, marron, bleu ciel, bleu foncé ou jaune, tout le monde s'en foutait. Vous étiez, la loi était la même pour tous. Mais là, on a commencé à expliquer que la force injuste de la loi, c'était ce qu'avait dit ce crétin de Mitterrand. Et donc, on a commencé à dire la loi est injuste pour ceux qui étaient noirs ou ceux qui étaient blancs, j'en sais rien. Et donc, on a commencé à identifier des droits qui appartenaient à des groupes. Et donc, à la place d'avoir une société fondée sur l'individualisme créatif, on a bâti une société qui est fondée sur le retour de la tribu. Et le retour de la tribu, c'est toujours la mort des sociétés.
Et alors, parallèlement à ça, et il fallait le chercher, tout en détruisant les identités.
Oui.
C'est-à-dire les identités locales.
Individuelles, oui.
Individuelles. La fierté d'être breton, la fierté d'être basque, la fierté d'être corse. Corse, ils s'y sont pas trop frottés parce qu'ils savent qu'ils vont s'en prendre une. Mais tu vois, la fierté d'être locale.
D'être français.
D'être normand. C'est-à-dire, tu dis, j'ai une spécificité qui est A, B, C, D. Et j'ai une histoire aussi, j'ai un enracinement parce que telle est la terre, plus mon petit village que le mont Palatin.
Mais on reconnaissait ces spécificités à condition qu'elles ne soient pas du pays dans lequel les gens rentrer. C'est ce que disait Coluche. l'Afrique aux Africains, bravo, l'Amérique aux Américains, bravo, la France aux Français, raciste.
Raciste, non mais c'est ça.
C'est exactement ce que disait Coluche. Donc on a créé des gens qui avaient des droits sur nous, on ne sait pas très bien pourquoi, mais nous qui n'avions aucun droit chez nous. C'était quand même très curieux.
Alors, la somme des actions des technocrates qui se sont retrouvés en pouvoir, et ça absolument partout, parce que ça a été, encore une fois, dans nos pays de l'Ouest, un mouvement mondial, d'abord, enfin un mouvement concerté en tout cas, de politique économique absolument déplorable. Donc il y a eu la politique des taux bas et ainsi que le quantitative easing.
Alors c'est ce que j'ai essayé d'écrire il y a à peu près un an et demi, tu sais, c'était dans... ça s'appelait la vérité vous rendra libre, c'est-à-dire que j'ai mis du temps moi à comprendre que c'était quelque chose qui était voulu par nos élites, c'est-à-dire que le but c'était d'arriver à une espèce de gouvernement mondial en imposant les mêmes contraintes à tout le monde, et ça a pris très bien dans nos sociétés parce que c'était là où c'était les élites, mais ça n'a pas pris du tout dans le monde asiatique, dans le monde d'Amérique latine, tout ça, les gens ne se intéressaient pas, ni en Afrique, et donc moi, j'ai mis du temps à comprendre que, dans le fond, tous ces dysfonctionnements qu'on voyait partout, ça faisait partie d'une volonté. Mmh. C'est-à-dire c'était quelque chose qu'on mettait des entraves à la liberté individuelle, parce que le but, c'était quand même d'arriver à une société qui serait dirigée par les sachants. Mmh. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer. Les anointed, comme le disaient les
Thomas Sowell.
Comme Thomas Sowell. Donc, pour moi, j'ai écrit ce bouquin, ce qui était un peu le bouquin de mon changement de perception sur ce qui se passait. Au début, j'ai dit que c'était une histoire de grand complot. Puis petit à petit, je me suis rendu compte que oui, il y avait un grand complot. C'était un truc extraordinaire. Et que ce grand complot, c'était d'arriver à la destruction de la famille, à l'émiettement de la société, à que chaque individu soit seul face au Moloch, en quelque sorte l'État, à ce qu'on bouge dans une société d'obéissance et non pas dans une société de compétence. Donc j'ai mis 10 ou 15 ans en regardant petit à petit, mais en me disant, peut-être si. Et j'ai l'impression que la société elle-même a mis du temps à comprendre. Puis on voyait des gars qui gueulaient, mais on se disait, il exagère, enfin, voyons. Et maintenant, tout le monde s'en est rendu compte. Alors, comme tout le monde s'en est rendu compte, ils apparaissent pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des gros nuls. Et ça va être ce que j'avais dit dans ce bouquin d'ailleurs, c'est que ce genre de société s'effondre toujours parce qu'elle est beaucoup plus fragile, puisque les gens sont légaux au pouvoir, mais ils sont pas légitimes. À un moment, les gens disent, vous êtes pas légitimes, foutez-moi la paix. Et c'est ce qui commence à apparaître partout. Donc, cette société, cette tentative de créer cette société est en train de s'effondrer, mais on sait pas très bien ce qui va arriver derrière, parce qu'il faut pas que, il faut pas, je veux dire, c'est bien quand l'Union soviétique s'est effondrée, mais il y a des pays qui s'en sont pas remis, et des pays qui s'en sont très bien remis. Donc il faut être dans ce... Il faut réfléchir à la façon dont on va changer, quoi.
Donc attends, j'ai dit les politiques déplorables, donc les taux bas, les quantitative easing, l'incapacité à ajuster la politique à la non-croissance, c'est-à-dire quand on a vu qu'on n'était plus dans une période de croissance, il aurait fallu couper dans les dépenses. Ils n'ont rien fait parce que ça aurait été beaucoup plus inconfortable.
Ils ont ce que tu appelles le quantitative easing, s'ils ont dit comment créer plus de richesse, on va créer plus de monnaie, ce qui donnera aux gens l'illusion de la richesse.
Plus la politique des taux bas, ce qu'ils ont fait partout, ce qui fait qu'en réalité, il y a eu une spéculation quelque part
sur
les actifs existants, qui fait qu'aujourd'hui, à force d'avoir fait ça, on se retrouve avec une rupture générationnelle, parce que les générations aujourd'hui qui arrivent sur le marché de l'acquisition ne trouvent pas à pouvoir acheter cet immobilier, parce qu'il y a eu ce que Charles appelle l'enrichissement sans cause, mais ça n'est pas ça juridiquement, mais on va l'appeler comme ça, parce que tout le monde comprend en français ce que ça veut dire, et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on va avoir des appartements qui aujourd'hui vont être valorisés à 2 millions, 3 millions, ce qu'un couple normal ne peut pas s'acheter en ville à Paris. Et plus personne trouve à se loger. Et de sorte que les boomers se font agresser par les gens de 30 ans, alors que l'un et l'autre n'y sont pour rien. Et que tout ça, ça a été une politique menée à dessein par des hommes et des femmes politiques.
Oui, et c'était extraordinaire. Et ce qu'il fallait, c'était... On l'a très bien vu à Paris. Paris était une ville où il y avait quand même... Il y a eu des révolutions qui sont faites à Paris. Il y avait toute une série de quartiers de Paris qui étaient très populaires. Si vous voulez, dans le quartier du Temple, dans le Marais, c'était le peuple qui était là. C'était bon. Ben, maintenant, on a tout fait pour que le peuple sorte de Paris. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de peuple à Paris. Il n'y a plus que des.
Bah oui, des quartiers. Par exemple, les Batignolles. Les Batignolles, c'était un quartier dans le Temple.
Montmartre, c'est un quartier.
Et maintenant, tu parles, c'est Ruby-sur-l'Ongle.
toutes les révolutions en France commençaient du côté du quartier du Temple, là-bas. Mmh. C'était quand ça se révoltait. Tiens, j'ai une belle histoire, c'est en 1830, quand il y a eu la révolution de 1830, mmh. il y a Rouget de Lille qui allait dîner chez celui qui a inventé la Marseillaise, qui a écrit la Marseillaise. Il allait dîner chez des amis. Il a dit à ses amis, oh là là, ça va très 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 mal. Ils sont tous là en train de se révolter dans le quartier du Temple et ils chantent la Marseillaise. Oh là là, ça va mal se terminer. c'est lui qui l'avait écrit. parce qu'à la fin, il n'était pas du tout révolutionnaire, Rouget de Lille. Bon, enfin, je raconte ça en étant simplement parce que le problème de la France, c'était les révoltes à Paris qui foutaient le bordel partout en France. Ça faisait des révolutions. Ça avait commencé avec Jacques Coeur, enfin, bref, le maire de Paris et tout. Il y en a toujours eu. Et puis maintenant, Paris est devenu l'endroit, quand vous regardez, tout le monde en France vote contre Paris, et Paris, c'est l'endroit où il y a tous les types qui sont sans aucune créativité. C'est vous regardez la carte, par exemple, du Front National, vous voyez que toute la France vote au Front National, et pas au Rassemblement National, et pas Paris. Ils continuent à voter pour Bayrou, quoi.
Ben oui, tous les fromages mous sont là.
tous les fromages blancs sont là. Mais ils ont réussi à virer tous les autres.
Oui.
C'est étonnant, quoi.
Alors, écoute, justement, puisqu'on en est sur l'analyse de l'évolution de tout ça, ce qui fait qu'on se retrouve, comme je disais, avec des tensions sociales et économiques absolument dingues.
Un effondrement de l'analyse.
Attends, on va faire point par point. Donc, une tension sociale et économique, et les tensions s'accroissent aussi suivant les groupes. C'est-à-dire, par exemple, en Angleterre, tu vas avoir à l'intérieur de l'Angleterre des conflits indo-pakistanais ou des conflits israélo-palestiniens. C'est vrai qu'on voit ça en France aujourd'hui. Pourquoi importe-t-on en France ce conflit israélo-palestinien? Pourquoi on en entend parler? Pourquoi certaines personnes au jour le jour le revendiquent-ils ou elles?
Pourquoi des gens accusent-ils des juifs français d'être des bourreaux contre l'humanité? Et puis les arabes de l'autre côté, les musulmans qui sont ici tapent sur les juifs français qui n'ont rien à voir avec le schmilblick, si j'ose dire.
C'est l'importation d'un conflit, comme en Angleterre, il y a des guerres de gangs entre indo-pakistanais qui, sur le territoire anglais, ma foi, ont assez peu lieu d'être.
Ben oui, parce qu'il faut savoir que l'Inde, les bagarres en Inde entre les musulmans et les non-musulmans, ça a été quelque chose. Il y a eu des massacres extraordinaires qui ont été faits dans les deux camps, sur l'autre camp.
Donc, personne n'a à être fier.
Personne n'a à être fier. Et ensuite, ils ont séparé la séparation de l'Inde en deux, Pakistan et Inde. Ça s'est fait avec Mountbatten, là. Là aussi, il y a eu, je sais plus combien de dizaines de millions de morts. Donc, mettons la haine entre les musulmans et les non-musulmans en Inde, enfin, dans la péninsule indienne, c'est quelque chose. Et donc, qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir ça en Angleterre?
La question se pose. Le second problème qu'on voit apparaître, et ça on le voit apparaître dans les jeunes générations, c'est que les gens constatent que nos économies ne fonctionnent pas, et du coup, cause du style, c'est la faute du capitalisme, par manque d'explication, parce qu'on ne leur explique pas, parce que aussi l'éducation nationale, souvent et partout, se sont saisies des choses et leur a farci la tête avec des idioties. Et donc, on est en train aussi, quelque part, de revenir à des idioties, et on le voit couramment avec des idées comme quoi des augmentations d'impôts permettraient d'eux, ou des étatisations permettraient d'eux, ou bon, et on se dit, on va là dans un renforcement justement du goulag et un renforcement
la justice sociale, si vous voulez, dès que vous mettez quelque chose, deux mots l'un derrière l'autre, ça ne veut plus rien dire. La justice, je sais ce que c'est. La loi, je sais ce que c'est. La justice sociale, c'est un animal, c'est à la justice que la musique militaire est à la musique, si tu vois ce que je veux dire. C'est un truc complètement idiot. Est-ce que la justice sociale, c'est de piquer du pognon à ceux qui sont capables d'en gagner, leur piquer tout leur pognon pour leur donner à ceux qui ne veulent pas travailler. C'est une bonne question. Est-ce que c'est, par exemple, de continuer à payer des gens en Algérie qui sont morts depuis 40 ans parce qu'ils avaient été fonctionnaires de l'État français? Mais là aussi, en Algérie, c'est un petit peu comme aux États-Unis, il y a plein de gens qui ont 120 ans, 130 ans et qui continuent à toucher les allocations. Donc tu vois, ce que je veux dire, c'est que au nom de la justice sociale, et en s'en servant du pouvoir de l'État pour contraindre, on contraint des gens à donner une partie de leur argent, on leur pique, à des gens qui ne partagent pas les mêmes valeurs. Et ça pose un problème très grave. Parce que c'est ce que dit Thomas Sowell, que j'aime beaucoup. Il dit, j'ai jamais compris pourquoi me forcer à donner une partie de mon argent à des gens qui n'ont rien fait pour l'avoir, c'est juste. Et moi, si je demande à le garder, pour le produit de mon travail, c'est injuste. Quand vous réfléchissez comme ça, vous dites, mais c'est vrai, qu'est-ce qui donne le droit ? Je ne sais pas quel politicien, Mélenchon, de venir chercher le produit de mon travail pour le donner à des gars qui n'ont rien fait pour l'avoir, simplement parce qu'il a une majorité. Mais la majorité, ça ne fait pas la légalité. Si la majorité décide de pratiquer le vol, ça reste un vol.
Et enfin aussi, dans les derniers problèmes auxquels nous devons faire face aujourd'hui, et on le voit encore avec la suppression par exemple de C8, c'est la perte de la liberté d'expression. Et ça, c'est quelque chose quand même qu'il faut regarder en face et qu'il faut... Alors grâce au ciel quand même, des nouveaux médias comme le nôtre permettent de contourner ça. Et on peut, quand on a un peu d'avidité intellectuelle, trouver à se réinformer. Mais plus que jamais, les médias mainstream, les choses... Moi, je suis toujours morte de rire de regarder des choses comme C'est dans l'air et ainsi de suite, parce que c'est vraiment radio l'allemand. Que pense le pouvoir ? Qu'est-ce qu'ils ont envie de nous farcir la tête avec ? Et la désinformation n'a jamais été aussi forte, j'ai l'impression, que depuis quelques années.
Et c'est ce que disait Chantal Delsol. Elle disait, au début, il se moque de vous. Quel vieux con, il est pour la famille. Enfin, bref. Ensuite, ils essayent de vous faire taire en ne vous reprenant pas, c'est-à-dire vous. Et enfin, ils vous tuent socialement. C'est-à-dire, ça passe toujours par trois étapes. La première étape, c'est le ridicule. Ce monsieur Gaffe, c'est un vieux con, d'ailleurs, c'est un financier. Il a piqué de l'argent à tout le monde dans sa vie, parce qu'un financier, c'est un gars qui pique de l'argent aux autres dans toute leur vie. Donc, il crée une espèce d'homme de paille pour le détruire et se moquer de lui.
Et ensuite, c'est pour ça que des émissions grotesques comme Quotidien venaient en renfort pour sur des biais, genre ah, 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 on rigole bien, on monte des trucs. Et puis bien sûr, tu as toujours aussi les étiquettes de racisme, de malin qui sont jetées à bon escient, à droite et à gauche.
Et au point que... Oui, donc on voit toujours ces trois étapes se passer. Mais ce qui se passe maintenant, c'est qu'on se rend compte que les gens qui pratiquaient ces trois étapes étaient achetés. C'est ce qu'on a vu, hein, comment ça va aux États-Unis qui sort, était acheté par des groupes de pression, les grandes sociétés pharmaceutiques, les grandes sociétés de bouffe, les grandes sociétés d'armement. Donc on se dit, ces gens qui me traitaient de raciste et tout, ils étaient payés pour le faire. C'est-à-dire qu'on est en train de voir que ces gens-là, ils parlaient au nom de la vertu et de la morale, mais en fait c'est des ordures, quoi. Ça a toujours été, et ils vivent eux-mêmes très noblement. Donc, ce qui s'est en train de passer depuis un an ou deux, c'est qu'on a vu que le roi était nu, que c'était des ordures, que les gens qui parlent dans France Inter sont très 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 bien payés, mais je me demande par qui, quoi. Et ce que j'attends avec impatience, c'est que, vous savez que, il y a un certain nombre de... On a vu que l'agence France Presse avait reçu de l'argent de USAID, là, cette espèce de société. Moi, j'ai demandé à des amis américains, est-ce que je pourrais avoir la liste des gens en France?
J'espère qu'on va avoir vite des sortes de Wikileaks ou des choses comme ça qui vont nous donner...
Wikileaks, c'est... sûrement pas. Mais
non, mais des sortes
de... Parce que j'ai demandé des gens importants aux États-Unis. Est-ce que vous pourriez me trouver la liste des gens
que
en France
qui ont été payés? Que ça arrive sur Internet, si tu veux, quand j'ai dit des... Voilà, que mais ça arrive
si
par...
Si ça pouvait arriver par nous, ça me ferait plaisir. Ouais. Voilà ce qui nous disait du mal de nous.
Comment restaurer la foi dans nos systèmes? Alors, première chose, quand on veut un changement, et ça c'est vrai pour tout, que vous soyez alcoolique ou ce que vous voulez, il faut faire face au problème. Donc déjà,
il faut les regarder en face.
Il faut faire revivre nos héritages nationaux, ça veut dire réformer l'État, à rediscuter de nos valeurs civilisationnelles communes en tant que pays de l'Ouest.
Et faire retomber les décisions de l'État au niveau local, c'est-à-dire que arrêter ces espèces de trucs. Moi, j'ai la gauche, j'ai la droite, j'ai les pauvres, j'ai les riches. Moi, ce que je savais, c'est quand vivais en province, c'est qu'il y avait des pauvres qui étaient là et qui étaient méritants, et des pauvres qui étaient là-bas qui n'étaient pas vraiment méritants. Donc, refaire la justice sociale ne peut être faite qu'à l'échelle locale. Elle ne peut pas être faite à l'échelle nationale. C'est simplement une imbécilité.
Et enfin, il faut restaurer, et pour ça, c'est pour ça qu'on existe, nous, l'Institut des libertés aussi, notre foi dans l'économie de marché, parce qu'il n'y a que l'économie de marché qui fonctionne. Et quand nous avons créé l'Institut des libertés il y a 12 ans, c'était il y a 13 ans maintenant, notre credo, c'était d'essayer de réexpliquer l'économie, ses fondamentaux, la façon dont ça fonctionne, pourquoi l'État est une gabegie constante, pourquoi il faut absolument s'atteler à couper dans ces dépenses complètement saugrenues, il y a un nombre de subventions des ministères de
mais regardez par exemple, encore une fois, je le
d'AGFI, d'ADEME, d'AGIROMI, on sait pas, des trucs, des acronymes,
le conseiller avec économique social.
Tous ces trucs-là, faut les mettre à plat, un par un. Ça va prendre du temps, mais il va falloir y aller. Ou alors, à la Canada, à la Chrétien, on coupe la queue du chien d'un coup sec et il va falloir y aller parce qu'on n'a plus de fonds.
Et ben, c'est ce qu'est en train de faire un petit peu Musk aux États-Unis. Quand il a pas supprimé US et ID, la société qui distribuait tous ces trucs pour corrompre tous les pays du monde, il en a simplement supprimé le pognon.
Oui, ben.
Et à ce moment-là, bah, il se retrouve un peu... et il a transféré...
Mais tous ces gens qui ont des grands idéaux vont bien sûr travailler pour rien.
Bien sûr.
Ah, c'est ce qu'ils nous demandaient à nous.
Commence, j'ai vu qu'il y avait 40 grandes... Depuis que USAID, le pognon a été supprimé, il y a 40 grandes NGO qui ont été demandées des subventions à Mme van der Leyen parce qu'elle ne les recevait plus
de
Washington.
À... Ouais.
Donc moi, si Madame van der Leyen veut filer des subventions, vous savez, moi, on accepte de l'argent de n'importe qui. On a toujours dit qu'on était très corruptible.
Oui, mais personne ne veut nous acheter, alors
on est
très déçus.
Ils ne nous croient pas.
Ouais.
Ils ne nous croient pas, je crois qu'ils... Donc ça veut dire qu'il faut restaurer ce qui avait fait la force de notre civilisation, c'est-à-dire l'individu peut avoir raison contre le groupe. C'est pas parce que vous êtes seul à penser quelque chose, que c'est faux.
J'ai envie de crier crayon, crayon.
C'est crayon, c'est non.
C'est Antigone.
C'est Antigone, ça justement. Ben, c'est la loi. Donc, pour moi, c'est absolument essentiel, parce que cette primauté de l'individu, c'est ce qui permet d'éviter l'égoïsme. Ça paraît curieux ce que je dis, mais l'individu qui travaille sur lui-même et se sent responsable, eh bien, il va s'occuper des gens autour de lui qui en ont besoin. Et il ne va pas en faire un métier. Il va s'en occuper parce qu'il faut s'en occuper. Mais il ne va pas en faire un métier, puis ensuite faire passer une loi qui lui permettra de vous piller pour être élu et lui toucher 14 retraites, comme ça se passe dans l'éducation nationale ou n'importe où.
Voilà, donc c'était...
Vous pouvez aller sur ARC, là, c'est pour ceux qui parlent l'anglais.
Pour ceux qui parlent l'anglais, ça c'était l'ARC. La prochaine conférence aura lieu en 2026, du 23 au 25 juin. Si vous parlez l'anglais, regardez si ça vous intéresse. En tout cas,
il y a peut-être des trucs de traduction instantanée en dessous, sur l'ARC, ça m'étonnerait pas.
Je sais pas, oui, c'est possible. En tous les cas, moi, ça m'a fait plaisir d'y aller, ça m'a fait plaisir de reprendre un peu du poil de la bête.
Alors, j'explique un peu l'historique de ARC. ARC, ça a été créé par un garçon qui s'appelle Paul Marshall, qui est un des financiers qui a le mieux réussi aux États-Unis, en Angleterre, que je connais depuis 45 ans, puisqu'il était à Warburg, et que je passais à Warburg une fois tous les trimestres, on est devenus assez amis. Il a monté son hedge fund, qui est un immense succès, et à la place de...
Il était anobli.
Il a été anobli par la reine. Et donc, il a créé l'équivalent de... c'est Canal Plus en Angleterre.
CNews,
qui s'appelle... GB News, Great British News. Il a créé un très bon truc qui s'appelle Unheard, qui, si vous lisez l'anglais, c'est un remarquable. Et il a racheté Le Spectateur, qui est un peu la bible de tout ce qui est conservateur intelligent en Angleterre. Et il a créé l'ARC. Donc il utilise une énorme partie de son argent pour... au départ, c'était dans l'éducation, puis maintenant, c'est dans la communication. Et il essaye d'aller vers aussi des changements sociétaux comme de... Et c'est un homme qui... vous le voyez, je le connais bien. Hein. Toi aussi, d'ailleurs, puisque tu es la marraine avec lui, il est le parrain d'un même petit enfant. Il a des cheveux qui partent dans tous les sens, un peu coiffé en brosse. Il se balade avec des jeans. Il a gagné énormément d'argent, mais il s'intéresse au sort de notre civilisation. Il veut faire ce qu'il peut dans ce qui est dans ses possibilités. Il dépense un argent noir pour essayer d'améliorer les choses, et en particulier pour les enfants. Eh bien, je trouve que c'est la quasi-totalité des grandes œuvres caritatives qui ont marché dans l'histoire, en commençant par la Croix-Rouge, qui est devenue un peu autre chose, mais ça a commencé avec des gens qui avaient la foi chrétienne. Vous n'avez pas de grandes œuvres caritatives dans des autres pays que dans nos pays. C'est-à-dire que... Et ça a toujours été créé par quelqu'un qui était tout seul, qui l'a créé au départ. Comment c'est qui chante à Noël, là, c'est les...
L'Armée du Salut.
L'Armée du Salut, ça a été pareil. L'Armée du Salut, c'est donc... Ce que je veux dire, c'est que chaque fois, on trouve un type qui se dit, c'est pas possible, je vais faire quelque chose. Et c'est profondément conforme aux évangiles, parce que jamais le Christ ne dit, va dire à Paul de faire ça. Le type dit à Paul, le Christ dit à Paul, si tu veux faire quelque chose, c'est toi qui le fais. Tu ne demandes pas à quelqu'un d'autre de le faire parce que tu trouves ça injuste. Si tu trouves ça injuste, tu t'y attelles toi. Donc il n'y a de révolution qu'individuelle. C'est-à-dire que c'est vous d'abord qui devez vous révolutionner en l'intérieur et ensuite vous aider. Mais l'idée qu'on va faire une révolution politique, c'est une idée diabolique.
Voilà.
Le diable est derrière le socialisme.
Et voilà, je pense qu'on tient notre conclusion, le diable est dans le socialisme. Voilà, mais écoutez, j'espère que ce moment civilisationnel vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre des pouces, à en parler autour de vous, à liker donc. Et on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.
Vous pouvez vous dire qu'est-ce que c'est avoir l'Institut des Libertés ? La réponse est tout.
Tout ? Bah si, je vais quand même bien expliquer là.
Mais je veux dire, pourquoi il nous fait un cours de morale ? C'est pas un cours de morale. C'est un cours d'économie.
D'abord, c'est un recensement, donc ça n'est pas un cours de morale. Et personne ne dit ça. Voilà, on vous embrasse. Gros bisous.